France Info.
France Info. C'est d'histoires douloureuses dont nous parlons ce matin dans le Zoom de France Info. Celle d'abord de Mathis, petit garçon de 8 ans, enlevé en septembre 2011 près de Caen. Celle de sa maman, qui se bat depuis 3 ans pour savoir ce qu'est devenu son enfant. Et puis celle de Sylvain Joanneau, le père au cœur de l'enquête. C'est lui qui a enlevé Mathis après un divorce difficile. Il a été arrêté quelques mois après l'enlèvement, mais il refuse depuis de parler et de dire ce qu'est devenu l'enfant. Ce père de famille saura ce matin s'il est renvoyé devant les assises pour complicité de séquestration. Bonjour Élodie Guéguin.
Bonjour.
Vous vous êtes penchée sur cette affaire, douloureuse donc, puisque si Sylvain Joanneau est en prison depuis plus de 2 ans, on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à Mathis.
Oui Agnès, et on ne sait surtout pas si Mathis est encore vivant. Sa mère veut garder espoir, c'est normal. Il n'y a pas d'aveu, pas de corps, mais plus le temps passe, plus les enquêteurs tempèrent l'optimisme de la maman. Des recherches ont eu lieu partout en France, également au Maroc, en Italie, aux États-Unis, en Suède. Plusieurs appels à témoins ont aussi été lancés sans résultat.
Et depuis 2 ans, donc, Sylvain Joanneau, le père, se terre dans le silence.
Oui, à chaque convocation chez le juge, c'est la même chose. Cet ancien maçon refuse de répondre aux questions. Un proche de la famille accuse. Cet homme prend un malin plaisir à nous mener en bateau. Lors de son arrestation, Sylvain Joanneau avait expliqué avoir remis son enfant à une connaissance. Mais qui est cette personne? Où se trouve-t-elle? Catherine Denis est procureure de la République de Caen.
C'est lui qui a la réponse à cette question. Il a effectivement essayé de négocier ou de faire du chantage, mais il n'a jamais donné le moindre élément exploitable. Je pense que M. Joanneau se rend compte que par son attitude de silence, il fait souffrir la mère de l'enfant et puis effectivement il met d'une certaine manière en échec la justice.
Si Sylvain Joanneau choisit de rester silencieux, c'est parce que le scénario qu'il a imaginé ne tient pas la route, selon Aline Lebray, l'avocate de la maman de Mathis.
Ce qui m'apparaît peu crédible, c'est que quelqu'un, où qu'il soit dans le monde, puisse ne pas se poser de question du devenir non seulement de Mathis, mais de son père, qui lui aurait remis, après plus de 2 années. Donc je ne crois pas à la bonne foi d'un ravisseur. Je ne m'explique pas, moi, ce comportement qui consiste à refuser de donner le moindre indice pour retrouver Mathis vivant ou mort. J'attends du père de Mathis qu'il assume tout ce qu'il a pu faire, même le pire.
Sylvain Joanneau jure qu'il n'a pas tué son fils, il l'aurait enlevé à sa mère après un divorce douloureux et une succession de décisions qui lui étaient défavorables. La justice ne lui avait par exemple accordé qu'un simple droit de visite et d'hébergement. Son avocate le compare à ses pères que l'on voit aujourd'hui grimper sur des grues pour réclamer plus de droits. Pour maître Véronique Demillière, c'est un sentiment d'injustice qui a poussé Sylvain Joanneau à kidnapper son propre enfant.
Ce dossier n'est que la conséquence d'une séparation conflictuelle qui a été mal réglée. Je n'ai aucun élément qui me laisse penser qu'il ait pu faire du mal à son fils. Sa vie, c'était son fils. Et bien évidemment qu'il y pense jour et nuit.
Pourtant, Élodie, le scénario de l'infanticide est bel et bien envisagé aujourd'hui par les experts psychiatres.
Oui, ils évoquent notamment le syndrome de Médée, le meurtre de l'enfant pour punir l'ex-conjoint. Paul Bensussan est expert auprès de la Cour de cassation. Il a souvent vu ce type de cas et d'ailleurs toujours chez des sujets masculins.
Il y a des hommes qui finalement sont trop fragiles et trop immatures pour supporter la rupture. Ils vivent la rupture exactement comme un abandon. On sait que ces hommes faibles, immatures, égocentriques sont capables d'actes terribles, y compris lorsqu'ils sont décrits comme étant de très bons pères et aimant leurs enfants. Car l'égocentrisme est comme une vague qui balaye tout sur son passage. L'amour autrefois ressenti pour l'enfant n'existe plus. Seul compte la souffrance du sujet et la rage narcissique et le désir de punir l'autre parent. En tuant l'enfant que nous avons aimé et élevé ensemble, je punis celle qui m'abandonne et je la condamne à souffrir à perpétuité.
Alors Sylvain Joanneau saura tout à l'heure s'il est renvoyé devant les assises.
Oui, s'il l'est, eh bien un procès devrait se tenir à l'automne. Procès pour soustraction de mineurs et complicité de séquestration. Sylvain Joanneau risque 30 ans de réclusion. En parallèle, une enquête contre X se poursuit pour des faits présumés d'homicide. La famille de Mathis nourrit un dernier espoir que Sylvain Joanneau craque lors de son procès et qu'il raconte enfin ce qu'il a fait de son enfant.
Merci Élodie Guéguin. Et nous sommes en ligne à présent avec maître Martine Valo-Forest, avocate au barreau de Paris et spécialiste des droits de la famille. Bonjour.
Bonjour.
Alors l'histoire de Mathis est évidemment et heureusement exceptionnelle, mais la volonté du gouvernement de mieux encadrer les séparations difficiles, avec notamment l'intervention d'un médiateur, montre qu'il y a quand même aujourd'hui un vrai besoin.
Absolument. Je ne connais pas de situation simple parce qu'une rupture, c'est déjà douloureux à titre personnel, c'est une remise en question, c'est un deuil. Pour les enfants, c'est la fin d'un paradis, la réunion des deux parents, être élevé avec ses deux parents. Donc tout ça engendre beaucoup de tensions, beaucoup de pression et on assiste à des rapports de force au quotidien qui sont difficiles à gérer pour nous. Donc l'intervention d'un médiateur est toujours bienvenue. Les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on escompte, mais c'est une démarche qui est quand même salutaire.
Alors on a entendu dans le reportage, il se fait que depuis quelques mois, les pères revendiquent une place, leur place. Alors même si, encore une fois, chaque cas est particulier, il semble que la justice ait longtemps peut-être penché en faveur des mères, d'où des situations effectivement très tendues.
Enfin, ça fait déjà un certain temps que les pères sont entendus. Rappelons que dans les années 2000, l'hébergement alterné est entré dans la loi. Donc, les mouvements de pères remontent aux années 90 et ils ont œuvré pour faire entendre leur voix et obtenir des droits qui soient un petit peu à parité. Enfin, ça n'a pas un grand sens à parité, mais qu'ils soient considérés comme des pères à part entière, si je puis dire. Aujourd'hui, on est dans une discussion sur les bienfaits de l'hébergement alterné. On revient un petit peu sur sa pertinence quand les enfants sont très jeunes, hein, puisqu'on a évoqué l'âge de 6 ans, en deçà duquel l'hébergement alterné ne serait pas forcément la solution idoine. Mais je ne peux pas imaginer qu'on puisse penser encore que le père est le parent pauvre. Non, les droits des pères sont, me semble-t-il, sont très respectés. La seule peut-être incompatibilité, c'est leur plus ou moins grande disponibilité à prendre une place au quotidien. Les mères n'ont pas toujours les mêmes contraintes professionnelles. Mais les juges d'affaires familiales ne font pas, à mon sens, de différence, sauf pour les enfants en bas âge, encore une fois, quant à l'hébergement chez l'un et chez l'autre.
On entend parler dans le reportage du syndrome de Médée, on parle aussi du syndrome d'aliénation parentale. On comprend mieux aujourd'hui les mécanismes qui peuvent se mettre en place au moment des divorces.
Absolument, mais quand le professeur Bensoussan, qui disait des choses très très justes, parlait du fait, enfin évoquait le fait que c'était très masculin, moi j'ai dans une affaire une mère qui se conduit de la sorte, qui revendique la résidence de son enfant alors qu'il a, c'est un enfant très jeune, 3 ans, dont la résidence est fixée chez le père, et cette mère a un comportement extrêmement agressif, violent, voire dangereux, puisqu'elle peut mettre de l'acide sur la voiture du père. Elle clame qu'elle veut absolument voir son enfant et quand elle a l'opportunité de le voir en lieu neutre, elle n'y va pas. Donc vous voyez bien que c'est une posture de victime et en réalité on veut punir l'autre toujours et ça procède, semble-t-il, puisque je ne suis pas psychologue, mais ça procède d'un certain narcissisme et d'égocentrisme qui est très mortifère.
Et justement, la justice a les moyens aujourd'hui de prendre en charge ces affaires ?
Eh bien, celles qui sont extrêmes relèvent du procureur de la République, hein, parce que c'est ces parents qui sont dans l'excès, qui sont dans l'aveuglement et qui peuvent montrer une dimension pathologique dans leur comportement relève de l'intervention du procureur de la République quand ils excèdent la mesure par des actes inqualifiables. Mais on regrette aussi que parfois la justice pénale n'agisse pas plus vite pour protéger ceux qui sont la victime de leurs agissements.
Parce qu'il y a parfois urgence. Merci beaucoup, oui. Maître Martine Valo-Forest, avocate au barreau de Paris, d'avoir été ce matin sur France Info. Merci Élodie Guéguin. Le Zoom est à retrouver sur franceinfo.fr.